Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Une Heure en Série, toujours la première saison, l'épisode 31. Une Heure en Série, l'émission qui décrypte et analyse toute l'actualité des séries télé, toutes chaînes confondues, et vous garantit des journées et des soirées séries 100% réussies, une mission service public qui prend un sens tout particulier en ces temps de confinement prolongé. Ce soir, nous parlerons crimes en famille et énigmes en chambre close avec Meurtre à White Farm House sur Polar+, famille plurielle et figure paternelle avec This Is Us sur M6, et enfin rivalité de sorcières et tensions raciales dans Penny Dreadful City of Angels sur Canal+ série.
Une heure en série. Xavier Le Herpeur.
Et avec ce soir, non pas autour de moi, mais pas très loin, les confinés Ava Kahn de Frenchmania. Bonsoir Ava.
Bonsoir Xavier, bonsoir tout le monde.
Vous allez bien ?
Eh bien écoutez, pas trop mal, et vous ?
Mais très bien, je vous remercie. Bon. Je sais que vous avez franchi un cap il y a quelques jours. Bon anniversaire avec quelques heures de retard.
Merci, merci, c'est chouette.
Christine Haas, vous en revanche, vous refusez qu'on donne votre âge et votre date de naissance, évidemment. Il y a des susceptibilités que l'on respecte dans cette émission. Mais bonsoir, chère Christine.
Bonsoir, Xavier. Merci de votre délicatesse.
Toujours. Alors ça, demandez-moi, je serai toujours ravi de pouvoir vous en faire profiter.
Et on ne pas la peine de rire à Benoît.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a un rire gras, évidemment, qui accompagne ma bêtise. On peut compter sur la solidarité masculine. Bonsoir, Benoît Lagan.
Bonsoir à tous. Oui, moi, je suis moins délicat. C'est vrai, c'est comme ça.
Benoît, qu'on retrouve le vendredi matin dans le 5-7, évidemment, l'excellent 5-7 de Mathilde Munoz. Et je vous propose eh bien, de lancer tout de suite les débats, voire peut-être les hostilités, avec Meurtre à White House Farm, série britannique en 6 épisodes, disponible sur Polar+, inspirée d'une histoire vraie. Meurtre à White House Farm revient sur un fait divers particulièrement sanglant qui avait tenu en haleine et passionné les Britanniques dans les années 80. Nous sommes en pleine campagne anglaise dans le Sussex. Les cadavres des Bamber, couple sans histoire d'une soixantaine d'années, de leur fille et des deux jeunes enfants de celle-ci, sont retrouvés dans une maison fermée de l'intérieur. Très vite, l'enquête s'oriente vers la seule solution plausible, c'est la fille, jeune fille instable et diagnostiquée schizophrène qui a commis l'impensable, tuer ses parents et ses enfants avant de se suicider. Mais, au lendemain des funérailles, une cousine de la famille émet des doutes sur la culpabilité de la jeune fille et désigne le fils des Bamber comme étant l'éventuel coupable. Un des policiers chargés de l'investigation, vieux Priscard, peu apprécié de sa hiérarchie, décide à son tour d'enquêter.
Dans la torpeur de l'été 85, l'affaire Bamber enflamme l'Angleterre.
Vous devez m'aider.
Je vous écoute, monsieur.
Il avait l'air terrifié.
Votre père vous a expliqué ce qui se passait ?
Il faut que tu leur dises que je veux arrêter de faire ces piqûres.
Il a dit que ma sœur avait perdu les pédales et qu'elle était armée.
Ils sont tous morts. Toute la famille. Croyez à la thèse du meurtre-suicide.
C'est ce qui s'est passé.
Elle aurait reçu 2 balles, là.
Il semblerait, oui.
J'ai déjà vu une chose pareille.
Pas que je me souvienne.
Sheila n'est pas coupable, selon vous.
Non.
Dit que toute ma famille est morte.
Je peux vous dire ce qui s'est passé cette nuit-là.
Alors, c'est une série qui a été créée par Chris Minska, j'espère ne pas avoir trop écorché son nom, auteur, entre autres, des séries Requiem et The Slap, ainsi que Julia Sandler, qui avait co-signé Nowhere Boys. Et il faut signaler que la série a été écrite avec la coopération de Colin Caffell, l'ex-mari donc de Sheila, la jeune femme désignée comme étant le coupable, et le père des deux fils Oxy lors de ce drame sanglant. Alors, Ava Kahn, qu'avez-vous pensé de ce meurtre en huis clos et de ce petit règlement de compte entre familles ?
Eh ben ça m'a plu. Et ce qui est troublant, en fait, avec les séries de ce genre, c'est qu'on y va un peu à reculons, hein, en se disant qu'on a vu ça 150 000 fois, que tout est dans le titre. Mais dès les premières minutes de visionnage, on tombe dedans, parce qu'en fait, c'est super efficace. Et l'ouverture de cette série-ci est d'une efficacité redoutable, parce qu'avec ces séries policières-là, on marche à l'atmosphère. Hein. La caméra est posée dans les herbes hautes. Dans l'axe un peu plus loin, on voit une ferme en briques rouges. S'inscrit à l'écran le lieu et la date, 7 août 1985 dans l'Essex. On sait, puisqu'on la voit de loin, qu'on va pénétrer dans la ferme et on découvre un lieu vide et sombre où on entend juste les mouches voler. C'est une sonnerie de téléphone qui nous fait basculer dans une autre dimension, celle d'un commissariat. Le coup de fil d'un fils inquiet pour son père que sa propre fille est en train de menacer, voilà, d'une arme. Voilà les bases hyper efficaces de ce polar qui ne réinvente pas le genre, hein, mais qui n'a pas la prétention de le faire puisqu'il doit respecter un genre de cahier des charges de la collection dans laquelle il s'inclut et il le fait vachement bien. On découvre petit à petit les membres d'une famille pieuse qui cache mille et un secrets. Les personnages sont bien composés, leurs relations sont ombrageuses, tendues, et évidemment, comme toujours, les apparences sont trompeuses. Et dès les premiers épisodes, les indices et les doutes sont semés, notamment en ce qui concerne Jérémy, le fils de la famille, que cette tragédie ne semble pas vraiment affecter. Hein. C'est un personnage plutôt versatile, plutôt antipathique. Il y a évidemment un Colombo, un inspecteur entêté, hein, qui sent que l'affaire est trop vite bouclée, mais qui n'arrive pas à convaincre sa hiérarchie, qui préfère classer le dossier. Son supérieur a baptisé le duo qu'il forme avec son coéquipier Laurel et Hardy, pour vous dire qu'au sein de cette famille-ci, hein, la police, il y a de l'ambiance aussi, hein, des tensions internes et beaucoup de méfiance. Et ce dont on se rend compte, comme toujours, c'est que le chemin vers la vérité est un chemin de croix. Donc c'est habile dans la construction, c'est surprenant, avec rebondissement en fin de chaque épisode, et on a envie de se jeter sur le suivant. Et puis c'est un vrai plaisir enfin de retrouver Mark Addy, hein, de The Full Monty, Stephen Graham, qu'on avait découvert dans Snatch, Gemma Whelan, qui était Yara dans Game of Thrones, enfin voilà, toute une bande d'acteurs absolument formidable, à l'exception peut-être de Freddy Fox, hein, qui joue Jérémy et qui pour moi est moins fin dans son interprétation de personnage borderline et pervers.
Merci Ava, merci aussi d'avoir corrigé, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, ça n'est pas donc dans le Sussex, mais dans l'Essex que s'était déroulé ce fait divers sanglant. C'est vrai que vous avez précisé quelque chose d'assez juste par rapport à la série, on a beau en connaître la fin, ou en tout cas on la trouve très facilement sur internet. Il y a dans l'écriture une manière d'élaborer le suspense, de nous tenir en haleine, effectivement de jouer la carte du cliffhanger à chaque épisode, qui est extrêmement, je trouve, réussi, habile, et qui fait partie de la qualité de cette série. Est-ce que vous êtes d'accord, Christine ?
Oui, non, c'est vrai que les Britanniques sont très forts, hein, dans ce genre d'exercice. Le scénario, d'ailleurs, a été aidé. Il s'appuie aussi sur un autre livre, hein, celui de Carol Hanley, qui est une spécialiste de faits divers, qui a fait toutes les recherches. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à travers les décors, les costumes, les coupes de cheveux, les voitures de flics, les ambulances, on est véritablement balancé dans les années 80, puisque ça se passe en 85. Et il y a aussi un gros travail de construction sur les personnages qui sont un peu à la Simenon. On voit comment ils entretiennent des relations complexes, empoisonnées par les mensonges, ouais. Les jalousies, les frustrations. Et en fait, ce qui étoffe largement la narration aussi, c'est le rapport de force entre ces deux flics, qui est très très amusant, parce qu'il y a la possibilité, l'explication possible du meurtre-suicide de Sheila, la sœur schizophrène, qui apparaît comme la coupable idéale. Et puis, ça va être la direction qu'va prendre l'un des flics pour mettre un point final à son enquête. Mais l'autre, qui est à la fois un peu son subalterne et plus perspicace, va soulever très vite quelques incohérences, dont il est rare qu'on se suicide en se tirant deux balles dans la tête. Successives, je veux dire. C'est vrai que le rapport des forces entre eux est assez amusant et montre en même temps, toute cette série montre à quel point l'enquête a été menée dans le désordre avec une telle incompétence qu'aujourd'hui encore, 35 ans plus tard, on n'est pas sûr de leur conclusion. Hein. Les avocats de Jeremy Bamberg ont tout fait pour tenter de bloquer cette fiction qui n'aide pas leurs clients dans ces tentatives d'appel en entérinant sa culpabilité. Et ce qui est vrai, c'est que pour une telle fiction, il faut quand même qu'une résolution soit à peu près satisfaisante. Il faut donc des gentils, des méchants, des victimes, un coupable. Et c'est Jeremy Bamberg est donc présenté comme un personnage à la fois angélique et démoniaque. Moi, je trouve que Freddy Fox fait bien le travail. Il nous propose plusieurs facettes. C'est un homme à la fois vulnérable, charismatique, manipulateur, déterminé. Donc, ce qu'on sait aussi, c'est que ce fait divers a secoué la Grande-Bretagne autant que l'affaire Grégory chez nous. 6 épisodes, pour moi, c'est quand même un peu long. Il y a des scènes un peu bavardes, parfois répétitives, voire inutiles, comme une scène de sexe assez chaude entre Jérémy et une femme un peu plus âgée, qui se regarde comme ça, comme une distraction. Mais je ne vois pas très bien ce qu'elle apporte.
On est en confinement, s'il vous plaît, Christine.
Voilà, bah oui.
Quelques plaisirs solitaires.
Bon, je vous la laisse, alors.
D'accord, c'est très gentil, je vous remercie beaucoup. Benoît, alors, ces meurtres dans la campagne anglaise vous ont-ils séduit ?
Oui, moi j'ai beaucoup aimé. Alors quoi dire de plus après avec Christine ? Moi, ce que j'ai aimé au fond, c'est que cette série n'est pas du tout construite comme un Wood Unit, quoi, de qui est le tueur, parce que finalement on le sait assez vite, on en est conscient assez tôt. Mais que la série fonctionne plus sur le qui crois-tu ou comment le vis-tu ? Et c'est d'ailleurs une émotion plutôt renforcée par le fait que c'est une histoire vraie, qu'on nous dit que c'est adapté de livres, mais aussi d'un travail documentaire complémentaire. Bref, il n'y a pas de retournement, je dirais, réel de situation. Et pour autant, il y a un suspense après chaque épisode. Donc ça, c'est vraiment une réussite. C'est aussi extrêmement... moi, j'ai ressenti quelque chose que j'avais rarement ressenti dans ce genre de série, somme toute assez classique. C'est l'émotion à l'encontre d'un personnage qui est et qu'on sait coupable. La douleur, par exemple, dans le premier épisode, la douleur donc feinte de ce fameux Jeremy Bamber est totalement crédible, notamment dans la scène où il tombe dans les bras de son ex-beau-frère. Je trouve ça tellement touchant, j'en ai eu presque les larmes aux yeux, alors que assez vite, on comprend que ce type est une saleté. Donc, hormis, moi je dirais, le petit bémol que je trouve à la série, c'est qu'il y a, ça manque peut-être d'éléments sociologiques et politiques qui permettraient de mieux saisir les raisons qui expliquent pourquoi d'ailleurs, un, la police passe vite sur cette affaire, et pourquoi ce drame éclate dans cette famille-là, à cette époque-là. J'aurais aimé peut-être un peu plus. Du coup, pour moi, il manque des épisodes qui auraient pu montrer ça. Effectivement, je suis d'accord avec Christine, la scène de sexe n'apporte rien, mais bon, c'est comme souvent dans les séries, hein, aujourd'hui. Et sinon, la réalisation extrêmement soignée, la structure sérielle en 6 temps qui marche à fond, et notamment, je pense, au non-effet ou au très peu d'effet du flashback, qui est vraiment le truc qu'on utilise tout le temps en général dans ce genre de série. Là, c'est très peu utilisé, sauf dans un épisode, et quand ça arrive dans cet épisode, c'est parfait. Donc voilà, j'ai passé un grand moment et je suis sorti de là totalement bouleversé et ému.
Très bien, et bien écoutez, je crois que l'avis est quasi unanime.
Ben oui.
Malgré quelques bémols autour de Meurtre à White House Farm, donc la série britannique disponible actuellement sur Polar Plus. You call and call my phone thinking I'm doing nothing better. I'm just waiting for it to stop so I can get back to it. How funny family is actually fucking has you in bits. Your mum has good genes but dads are ripped. Dance like no one is awkward, to music listen to lit. You'd worry less about what they thought if you knew how little they did. Bunch of better things, they fucking love all of the guessing. Someone just met your ex thinking they met someone special. The phone is ringing, the phone is ringing, can't use it till it stops. I moan and listen, the tone emits. The only man in black, high-vis jackets in the cap. Brexit breakfast, day glow stars, I am backing and dashing. Whoever's with my ex needs to do better. She's still texting me at 2 till 10. Weird liquor tastes weirdly better when your life is fucked up. I was gonna call. Call and call my phone thinking I'm doing nothing better. I'm just waiting for it to stop so I can use it again. Love isn't a riddle, love isn't made to be hard. You know I'd give you my kidney, just don't ever take my charger. So dance like no one is awkward, to music listen to lit. You'd worry less about what they thought if you knew how little they did. You call and call my phone thinking I'm doing nothing better. I'm just waiting for it to stop so I can use it again. I was gonna call. Vous venez d'entendre The Streets, leur tout dernier titre. Alors, je me lance, Call My Phone Thinking, I'm Doing Nothing Better. Ouh, mais j'y suis presque arrivé.
Oh, bravo.
Ouais, voilà, j'aimerais un tout petit peu de soutien de votre
bravo,
part.
Bravo, bravo.
9 ans d'absence, The Streets fait son grand retour avec ce morceau réalisé en collaboration avec Tame Impala. Ce titre est le morceau d'ouverture de, et je me relance à nouveau, None of Us Are Out of This Life Alive. Ne me demandez pas une traduction, je crois que je n'y arriverai pas, qui sera la prochaine mixtape de The Street et dont la sortie est prévue pour le 10 juillet.
France Inter. Une heure en série.
Voici l'heure maintenant du deuxième débat de cette soirée consacrée à This Is Us, diffusée sur M6 depuis le jeudi 30 avril. À raison d'un épisode par soir en seconde partie, donc il vous faudra attendre 21h55 pour découvrir cette série magnifique. Alors d'accord, c'est loin d'être une nouveauté, elle a déjà été multidiffusée ici en France, aux États-Unis, la série en est à sa 4e saison, mais le fait que M6 décide de la diffuser en ces temps de confinement et de disette nous permet d'évoquer une série majeure de ces dernières années qu'une heure en série n'avait pas eu jusque-là l'occasion et le plaisir d'aborder. Bienvenue donc à celles et à ceux qui ne savent encore rien de cette série lacrymale et qui vont découvrir les joies d'un sol très consommateur en mouchoir en papier. Pour le résumer, je vais essayer d'en dire le moins possible afin de ne pas déflorer l'effet de surprise sur lequel se clôt le tout premier épisode. Et s'il vous plaît, je vous demanderai d'en faire de même lors du débat. On peut juste dire qu'il s'agit de l'histoire d'un couple qui attend des triplés. Vous m'arrêtez si vous considérez que je vais trop loin. Mais également d'un beau gosse, parfois peu sûr de lui, star d'une série télé sans grand intérêt, de sa sœur, qui est à la fois sa confidente et sa souffre-douleur, et qui est une jeune femme luttant depuis son enfance contre les problèmes de surpoids, et enfin d'un jeune afro-américain habitant dans un quartier 100% blanc où l'intégration est parfois compliquée. Ça va, vous avez l'impression que j'ai défloré quelque chose?
Non,
parfait.
Pour moi, la grande réussite de la série, c'est qu'elle interroge aussi la notion de famille, de paternité, ce qui est assez rare, mais c'est aussi une série chorale sur l'Amérique d'aujourd'hui et sur le regard des autres qu'il faut sans cesse subir, que vous soyez enveloppé afro-américain ou vedette du petit écran.
Je l'ai retrouvé.
Qui ?
Mon père, William Hill.
Cette série est vraiment mauvaise.
J'arrête. Je vais faire du théâtre. Ouais. Je sais que ça risque d'être un accouchement compliqué, mais tout se passera bien.
J'avais une sorte de programme d'avenir quand j'étais toute petite. Qu'est-ce qu'a déconné ?
Devinerez-vous ce qui les unit ?
La vie est pleine de couleurs. Et chacun d'entre nous arrive et apporte sa propre couleur.
Alors, c'est une série créée par Dan Fogelman, qui fut producteur de The Neighbors et de Gavalant, une série parodique et musicale un peu oubliée, mais que j'avais trouvé assez réussie il y a quelques années. Un triomphe aux États-Unis, avec plus de 15 millions de téléspectateurs pour la première saison, mais un triomphe aussi à l'international, et un triomphe également du côté de la presse. Pour Télérama, Cédric soigne les envolées sentimentales et les révélations dramatiques grâce à une écriture inspirée, des dialogues souvent drôles et des personnages touchants. Et pour Le Point, This Is Us est un phénomène de société aux États-Unis qui célèbre la famille sans presque jamais céder au politiquement correct. Et je sais qu'on a un fan de la série parmi nous ce soir, et vous venez déjà d'entendre son espèce de raclement de gorge, assez sexy, faut bien dire les choses avec le temps. Je vais donc lui donner la parole immédiatement, cher Benoît, This Is Us, vous qui aimez les séries familiales, vous qui aimez les séries lacrymales, vous qui aimez les bons sentiments et leurs déferlantes, elle était faite pour vous, le rendez-vous est-il à la hauteur de vos attentes ?
Totalement. Moi, quand cette
série... Merci beaucoup, cher Benoît. À bientôt.
Non, mais quand cette série est arrivée, j'en attendais beaucoup et j'y croyais pas. Parce qu'il y a toute une histoire de la série familiale hors soap opéra, on va dire, aux États-Unis, qui est compliquée. Elles existent, il y en a eu. Ce sont des séries qui se sont toujours arrêtées assez vite parce que le public n'était pas au rendez-vous. Donc moi, j'avais un petit peu peur de la même chose pour This Is Us. Or, This Is Us a cartonné parce que c'est ça sa force. C'est une chronique, finalement, de vie de famille, mais qui incorpore des éléments de rebondissement dignes d'un soap sans tomber dans le soap. Par ailleurs, This Is Us, la grande force, c'est qu'une grande série sur l'histoire de l'Amérique. D'ailleurs, This Is Us, on pourrait presque dire This Is US. Voilà, c'est nous, c'est les États-Unis. Donc, c'est une histoire intime de l'Amérique des années 70 à nos jours, vue depuis l'angle familial. Et puis, c'est un régal pour les amoureux de séries familiales. Dès les premiers épisodes, on voit que ce personnage qui joue dans une sitcom un peu naze donne la réplique à Alan Tick, Feu Alan Tick, qui était le père de la série Quoi Neuf Docteur dans les années 80. Donc, il y a quelque chose de la symbolique comme celle-là. C'est une série qui parle aussi du poids de la guerre sur ces hommes américains et la présence dans une saison plus tard d'un Sylvester Stallone, par exemple, est aussi là pour rappeler ça. Le casting est parfait avec des personnages qu'on avait vus parfois dans des séries familiales. Alors, il y a Milo Ventimiglia que l'on avait vu dans Gilmore Girls ou dans Heroes. Voilà, il y a Mandy Moore qui, elle, était plus connue pour des voix, notamment c'est elle qui chante Réponse dans le film animé Réponse. Kevin, enfin, le personnage Justin Hartley, Kevin, qu'on avait vu dans Des Feux de l'amour ou dans Revenge ou Smallville même. Donc, en fait, ça joue sur des visages qu'on connaît un peu, mais qui vont vraiment devenir devenir les personnages de cette série. Et ça, c'est assez rare, c'est-à-dire qu'on ne voit pas un personnage d'une autre série dans This Is Us, mais vraiment ces personnages qui s'incarnent. Donc c'est brillantissime, la série, donc vous le disiez, Xavier est à sa 4e saison, qui passe en parallèle là, sur Canal+, donc pour ceux qui ont Canal+, ils ont pu voir la dernière saison, et c'est une série qui ne rate rien jusqu'à sa 4e saison, en se réinventant en permanence, tout en gardant le fil de cette histoire qu'on ne peut pas dévoiler, mais qui est magnifique.
Ah bah, est-ce que vous partagez l'enthousiasme de Benoît Lagane ?
Oh bah oui, hein, comment ne pas fondre devant This Is Us, c'est compliqué. C'est la série qu'on regarde en mitouflé dans sa couette, avec des gâteaux ou des sucreries, et évidemment un paquet de mouchoirs, hein, vous l'avez dit, à proximité, parce que l'émotion, elle est vive. On rit, on pleure, on s'identifie aux personnages, leur trajectoire nous ébranle. Ce qui est fort avec une série comme celle-ci, en fait, c'est qu'elle ne joue pas la carte de l'audace ou de la nouveauté, c'est ce que tu disais, Benoît, mais elle mise sur un ingrédient qui fait parfois défaut à certaines séries du moment, et ben, c'est justement les sentiments. Et les sentiments, c'est le fond de commerce de This Is Us, et c'est la justesse du maniement de ces derniers qui fait basculer la série dans une autre dimension. La qualité de son écriture l'empêche toujours de tomber dans le lit de la mièvrerie, et on peut avoir l'impression que la mécanique est simple à première vue, mais arriver à mener avec autant de talent un récit polyphonique et familial de cette ampleur, bah, c'est pas rien. Je me souvenais pas, et je n'en dirai rien bien sûr, mais à quel point le premier épisode était si beau, une véritable toile de maître, quoi, vraiment. Chaque épisode va approfondir la psychologie des personnages de manière individuelle, mais aussi de manière collective, hein, évidemment, parce qu'on parle de famille ici, il y a une dynamique familiale qui est essentielle. J'aime beaucoup ces personnages. Il y a une jeune femme qui s'appelle Kate, qui est brillante, obèse, célibataire, qui s'est chantée Time After Time de Cyndi Lauper comme personne. Kevin, donc, un comédien de soap à succès, beau gosse en pleine crise existentielle, et Randall, brillant juriste noir, marié, deux enfants, qui décide d'entamer tout un processus sur lui-même, lui aussi en crise existentielle. Tous essayent de se libérer d'un poids. Puis la série brasse des thèmes universels, hein, et évidemment avec succès, l'amour, la maladie, l'abandon, l'amitié, la réussite professionnelle, les échecs personnels, l'alcoolisme, etc., etc. Et tout ça est fascinant. C'est une véritable tranche de vie qui nous est proposée. Et les acteurs, comme tu le disais, Benoît, sont absolument fascinants. Moi, je me suis réjouie, voilà, de retrouver Milo Ventimiglia dans cette série-ci. Chrissy Metz qui joue Kate est absolument formidable. Et Justin Hartley, dans Les Feux de l'amour, effectivement, c'était un des personnages. Et là, c'est très intéressant de le voir dans ce personnage. Sinon, je suis conquise, évidemment.
Mais en voyant la série pour préparer l'émission, j'étais étonné à quel point la figure paternelle est importante dans This Is Us. C'est souvent la mère qu'on présente dans la fiction, a fortiori américaine, parce que c'est un peu le pilier quand même de la famille.
Du foyer,
du foyer, absolument. Et la récurrence des pères, qu'ils soient, on ne va rien dire, mais liés par l'ADN ou pas d'ailleurs, aux différents protagonistes, extrêmement importante, elle est extrêmement récurrente et je la trouve extrêmement fine, extrêmement importante, parce que oui, un père, c'est déterminant dans une vie quand même. Christine, justement.
Absolument. C'est vrai que la transmission est au cœur de ce récit. Et l'auteur, Dan Fogelman, part d'une simple observation. Comment des personnages nés le même jour, issus du même milieu et élevés ensemble, peuvent avoir des existences aussi différentes. Alors après, c'est vrai que dans la série, l'amour est très présent entre les protagonistes, hein, malgré les rivalités, les malentendus, les trahisons, en dépit des problèmes de poids, de couleur, d'abandon, de réussite sociale et familiale. La mort n'est jamais très loin non plus, hein, derrière les traumatismes insurmontables de l'enfance, aval d'Isée, l'alcool, la drogue, la maladie ou la dépression, et les bonheurs. Les moments de bonheur sont assez fragiles, tandis que l'angoisse et un malaise pernicieux pénètrent la narration. Et à travers de constants allers-retours dans le temps, par petites touches impressionnistes, This Is Us suit l'évolution des personnages qui se présentent à nous sans filtre, qui nous émeuvent parce qu'ils nous ressemblent, parce que Us, c'est nous aussi, hein, dans leur mal-être, leur complexe, leur difficulté à se regarder tels qu'ils sont, à s'accepter pour progresser, sortir de la spirale du malheur pour tenter d'être heureux. Leurs névroses et imperfections les rendent attachants, et dans cette quête de vérité, les acteurs sont tous incroyables de finesse et d'empathie, tant ils se livrent à nous corps et âme. Alors, c'est vrai, on ne peut que le redire. Sur les quelques 40 minutes de chaque épisode, on alterne entre le rire et les larmes. On pleure beaucoup, tant l'écriture et les dialogues mélangent adroitement l'humour et l'émotion. Alors, les confrontations, ce qui est intéressant, c'est que les confrontations peuvent être violentes parce que les protagonistes ne mâchent pas leurs mots. Les personnages sont tour à tour insupportables de mauvaise foi, bouleversants de sincérité, mais les situations ne sont jamais fausses. Sans naturalisme excessif, l'écriture assume parfois ces quelques moments de sentimentalisme un peu excessif, aborde sans fausse note, en revanche, les enjeux politiques contemporains, comme les guerres, ça, Benoît en parlait. Mais ce qui est vraiment formidable, c'est qu'on est là dans l'affirmation d'une Amérique mixte et multiple, qui est une belle alternative à celle que notre cher Trump nous propose.
Merci à tous les trois d'avoir aussi brillamment défendu une série majeure, encore une fois, je me répète, mais je le pense vraiment, qui redémarre ce soir, depuis la première saison, sur M6, tous les jeudis soirs, à raison d'un épisode par soir, en seconde partie de soirée, vers 21h55. Ça vaut vraiment la peine d'attendre un tout petit peu et de vous coucher un peu plus tard. Après tout, on est en confinement. Voilà un classique de 1979, We Are Family, des Sisters Sledge. Les Sisters Sledge sont de véritables icônes du disco et de la soul. C'est peu dire qu'on a dansé dessus, surtout moi et mon grand âge. Les Sisters Sledge est un groupe formé à Philadelphie en 1971 par quatre sœurs, Deborah, Joanne, Kim et Katie. Elles étaient alors âgées de 12 à 17 ans. We Are Family, c'est plus qu'un tube. C'est un véritable hymne féministe que reprirent d'ailleurs à leur compte aussi les communautés afro-américaines et LGBT. C'est indémodable, indétrônable et toujours aussi génial.
France Inter. Une heure en série.
Et il est temps de remonter à présent l'histoire de la télévision, le temps avec l'effet miroir de Benoît Lagasse, toujours en mode confiné bien sûr Benoît. Vous avez souhaité pour quelques semaines nous proposer un effet miroir en forme de Madeleine de Proust franco-française. Et après le papa poule de la semaine dernière, quelle série allez-vous évoquer cette semaine?
Eh bien Xavier, après le père des années 80, je vous propose de vous parler ce soir d'une autre série que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, encore désolé Ava. Une série des années 70.
Sur et nous rien, films... nous par principe on est des vieux.
Non, c'est ça.
Merci beaucoup.
Une série des années 70 sur des flics de l'avant-guerre et des années folles, vous aurez bien sûr reconnu... Brigade du Tigre, une série qui démontrait, comme le chantait non pas Xavier mais Philippe Clay sur le générique, que les flics étaient enfin devenus des cerveaux. Alors, c'est une série conçue par Claude Desailly, diffusée pour la première fois en 1974 sur la deuxième chaîne, une série française qui est restée à l'antenne quasiment 10 ans, hein. entre 1974 et 1983. 6 saisons, 36 épisodes et plusieurs générations de téléspectateurs et téléspectatrices grâce à ces multiples rediffusions. Alors, pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler des Brigades du Tigre, la série, ça raconte quoi? Eh bien, tout simplement, les enquêtes de trois flics à moustache, même si l'un la rase au fil des saisons. C'est Jean-Claude Bouillon, le commissaire Valentin. Et donc, ces flics de l'avant et après Première Guerre mondiale. Alors, trois super flics au service de la République qui pouvaient compter sur les dernières inventions techniques de l'époque pour résoudre leurs énigmes. Et la révolution de l'époque, c'est la torpedo qui, comme le chantait encore Philippe Clay dans la version longue de la chanson du générique, permettait à ces policiers d'être en torpedo de vrai casse-cou à 35 au chrono. Alors oui, la torpedo étant, j'explique pour vous, Ava, qui vient de fêter ses 24 ans,
n'est
pas ni le cheval de Zorro, ni la première mobilette de Christine, mais une jolie décapotable apparue dans les années 1910. Et à bord de leur bolide, donc Valentin, Pujol et Terrasson, c'était un peu les Jack Bauer, un tricolore de leur époque. C'est une série pleine de rythme, de rebondissements et de course-poursuite, certes, à l'heure de l'éclatement de l'ORTF. Alors, la recette des Brigades du Tigre, c'était une pincée d'enquête policière, un peu de comédie, pas mal de fantastique et de surnaturel, et des histoires où nos héros devaient déjouer les plus grands complots du début du XXe siècle. Et bien que les histoires soient totalement fantasques, elles se déroulent dans des périodes toujours bien identifiées et s'inspirent de vrais moments historiques. On retrouve des échos à la montée des tensions d'avant 14, à la politique coloniale, au mouvement féministe et combat pour le droit de vote des femmes, la fin du tsarisme, etc., etc. C'est né d'un fait réel. La série se base sur les véritables premières brigades mobiles créées par Georges Clémenceau, dit le Tigre, mais que l'on n'appelait pas du tout à ces brigades les Brigades du Tigre. Ça, c'est une invention du créateur de la série. Et Claude de Sailly, d'ailleurs, fait naître ces brigades en 1907, trois ans avant leur existence officielle. Alors, revoyez pour preuve sur Madeleine, la plateforme de l'INA, la première saison de cette série, pour voir que, finalement, ces brigades sont passionnantes. La série a connu une belle longévité, une septième saison a été écrite, mais en 1983, Antenne 2 arrête la série, dommage. Cette septième saison devait donner sa version des années 30. Curieux de savoir ce que cela aurait pu donner. Alors moi, je lance un appel, Xavier, si vous êtes d'accord. Dès que ce sera possible, puisqu'aujourd'hui, notre fiction française a retrouvé la vitalité de son premier âge d'or, le retour des Brigades du Tigre à la télévision, ce serait passionnant, à condition de ne pas nous servir la même soupe que le film de cinéma de 2006. Oui, et puis qui sait, on pourrait même demander à Alex Baupin ou je sais pas, Philippe Catherine, de chanter la célèbre chanson du générique, sûr que France Inter pourrait même être partenaire de la série.
Eh bien moi je suis tout à fait d'accord effectivement pour qu'on relance une nouvelle saison des Brigades du Tigre, très éloignée effectivement du film très médiocre qui en avait été tiré en 2006, et je vote en ce qui me concerne, oui absolument, pour Alex Baupin au générique. Les filles, vous êtes d'accord?
Oui.
J'adore cette unanimité féminine. Cher Alex, voilà, à vous de réinterpréter ce classique. C'était quoi déjà, Monsieur Clémenceau?
Vos flics maintenant sont devenus des cerveaux.
Je savais qu'on arriverait à faire chanter Benoît Lagarde.
Ah là là, une heure en série musicale. C'est...
Merci, on va le calmer un tout petit peu. Merci beaucoup Benoît, allez reprendre vos médicaments. L'effet miroir, une chronique à réécouter en podcast, ainsi que l'ensemble de l'émission, bien évidemment. Vous êtes toujours dans Une Heure en Série sur France Inter avec Christine Haas, Ava Kahn et Benoît Lagan. Et il est temps d'entamer notre troisième et dernier débat pour cette soirée. Penny Dreadful, City of Angels sur Canal Plus série diffusée depuis le 27 avril à raison d'un épisode par semaine chaque lundi soir. Je tiens à vous signaler avant toute chose que nous n'avons pu voir à ce jour que trois épisodes. On se souvient toutes et tous de l'excellente série Penny Dreadful avec une Eva Green magistrale et déchaînée, une série diffusée entre 2014 et 2016, une série qui nous plongeait dans un Londres victorien et macabre. Cette nouvelle version n'a rien à voir à part le titre avec sa grande sœur puisqu'elle se déroule désormais dans le Los Angeles de 1938. Thiago Vega, jeune flic d'origine mexicaine, intègre la police de LA, une police 100% blanche qui voit d'un très mauvais œil l'arrivée de cette jeune recrue au teint hâlé et lui fait vite ressentir son animosité. À l'exception toutefois du vieux flic au cuir bien tanné avec lequel notre héros fait équipe. Ensemble, ils enquêtent sur des meurtres sanglants et rituels qui évoquent la mythologie de la déesse mexicaine Santa Muerte. À cette époque, elle est aussi le terrain de nombreuses hostilités, non seulement raciales, mais économiques et idéologiques. Le maire veut récupérer les terrains sur lesquels survivent les Mexicains pour y bâtir des immeubles de luxe et des nazis immigrés aux États-Unis essayent de convaincre les Américains qu'ils n'ont aucune raison de prendre part au conflit qui commence à embraser l'Europe. Mais dans cette série aux accents fantastiques, la Cité des Anges est aussi le terrain de guerre de deux divinités prêtes à tout pour asseoir leur suprématie.
Satan is here. Children, you are not safe, Lord. Save us.
Comme l'original, Penny Dreadful, City of Angels est signé par John Logan, auteur au cinéma des scénarios de deux très bons James Bond, Skyfall et Spectre. Côté casting, c'est peu dire l'immense plaisir que nous, enfin que j'ai très personnellement, de retrouver Natalie Dormer. Oh. Dans les Tudors et bien sûr dans Game of Thrones.
Voilà.
la pamoison d'Avakaïn que vous venez d'entendre. Et puis également le assez joli garçon quand même, Daniel Zovato, vu dans la trop méconnue série Here and Now d'Alan Ball.
Oui, effectivement.
La presse est un peu mitigée, je tiens à le dire, mais peut-être ne le serez-vous pas. Rappelons encore une fois que nous n'avons vu que 3 épisodes, donc il faut relativiser un peu les opinions. Télérama parle d'une série qui prétend mêler politique, histoire et mythologie entre supernaturel balourd et personnages mal définis. Le pari n'est pas gagné, là, voilà, entièrement première classe. Même son cloche pour les Arocs, auxquels manque une porte d'entrée intime, émotionnelle, pour que cet imaginaire touffu se mette à palpiter. C'est vrai que c'était vraiment la réussite de Penny Dreadful, l'original. Est-ce que c'est ce qui manquerait éventuellement à cette nouvelle version, Los Angeles, le soleil, la Californie? Eh bien, vous allez nous dire cela. Christine, ah, vous n'étiez pas encore tout à fait née à l'époque, mais pas loin. Qu'avez-vous pensé de City of Angels, Penny Dreadful?
C'est vrai que c'est quasiment mes souvenirs d'enfance.
Vous avez grandi en quartier quand même, hein.
On a un peu de mal, c'est vrai, à comprendre pourquoi cette série qui se déroule dans un Los Angeles brûlant 1938 sera un spin-off de cette série originale qui se déroulait dans le Londres victorien et brumeux et qui s'ouvrait sur une exploration sombre et métaphysique de la condition humaine. Alors l'idée commune, ça pourrait être que l'être humain est le monstre le plus épouvantable de tous. C'est un programme apocalyptique qui est annoncé par le personnage démoniaque incarné par Natalie Dormer. Donc, nous voilà dans l'âge d'or de la cité de Los Angeles, à une époque où les États-Unis sont ouvertement racistes. Le premier et unique flic mexicain est donc associé à un partenaire juif, lequel n'a pas non plus beaucoup de choix. Et alors donc, nos deux personnages, nos deux outsiders, on pourrait dire, enquêtent sur le meurtre d'une famille et découvrent le monde corrompu de la politique, de l'immobilier, la brutalité policière, toute cette frange de la population séduite par l'extrême droite, avec un nazi officiant en tant que médecin pédiatre. Vous l'aurez remarqué, les nazis sont souvent médecins. Et tous les embryons du nationalisme blanc de l'America First. Alors, à travers la mère du flic Chicano, on découvre effectivement la Santa Muerte de la mythologie mexicaine, qui personnifie la mort, un peu comme la grande faucheuse dans le folklore européen, mais dotée de certains attributs positifs, comme la guérison, la protection. Ses fidèles étant souvent assimilés à des hors-la-loi, l'Église catholique la condamne comme étant une tradition païenne. À travers son amoureuse Sister Molly, on pénètre dans l'antre des congrégations religieuses et la série s'inspire de l'évangéliste Aimée Semple McPherson, qui a été la première à incorporer les spectacles chantés dans ses sermons. Et à travers ses frères, on va découvrir le syndicalisme, le gang Pachuco, qui est une sous-culture chicano associant le zout, la vie nocturne, un comportement flamboyant en signe de défi envers une société raciste, avec un style vestimentaire assez particulier. On voit une longue veste, des pantalons bouffants. Et c'est un mouvement de résistance sociale et culturelle qui débouchera en 1943, donc un peu plus tard, sur des incidents violents qui vont les opposer à la police et aux soldats. Alors tout ça, je vous le raconte, car ce sont autant de pistes extrêmement intéressantes, colorées, qui pour l'instant ne mènent nulle part. On est dans l'illustration visuelle sonore. On a de beaux décors, des costumes, de beaux effets spéciaux, des belles scènes de danse, mais la narration stagne. Et c'est vrai que la magnifique Natalie Dormer n'en finit pas de changer de costume, de perruque pour provoquer le chaos. Alors elle est une nazie donc blonde, une éminence grise à lunettes, une pachuca en brune, un démon en latex noir. Ça c'est amusant. Mais les motivations des forces surnaturelles qu'elle incarne sont tellement opaques qu'elles en deviennent vraiment frustrantes. Et à la fin du troisième épisode, la série, elle n'a toujours pas décollé.
Je suis hélas totalement d'accord avec vous, mais peut-être Kava, par exemple, va nous contredire.
Mais, moi, je trouve ça pas mal. Les premiers épisodes m'intriguent, en fait. Je suis curieuse de voir la suite, parce que c'est vrai que là, les enjeux commencent à peine à se décanter. Ce qui est étonnant, c'est ce parti pris du temps lent, comme dans les vieux polars, où l'action s'étire. Voilà, on prend vraiment le temps, j'ai l'impression, et ça, c'est assez inattendu. On change, comme vous le disiez, radicalement d'ambiance par rapport à Penny Dreadful, hein, bye bye le brouillard londonien, Dracula, Dorian Gray, Frankenstein. Et en même temps, on retrouve des thèmes communs avec la série originale et gothique de Logan, c'est-à-dire la propagation du mal, les différentes expressions de la monstruosité, l'éternelle peur de l'autre. Et j'ai l'impression que ces thèmes ici sont abordés avec la volonté de faire davantage écho à l'actualité, et notamment à la politique d'immigration trumpienne. Le pari de Logan ici, c'est quand même de réussir à injecter de l'héroïque fantasy dans un cadre plus réaliste que celui de Penny Dreadful, original. Et la magie noire ici, en pénétrant la réalité, va accentuer son absurdité, mais aussi sa brutalité. Donc c'est sombre, malgré le soleil californien qui brille. Ça joue du folklore latino-américain, et particulièrement, vous l'avez dit, celui de la célèbre fête des morts. Et évidemment, sinon ça ne s'appellerait pas Penny Dreadful, il y a des créatures démoniaques introduites dès la séquence d'ouverture, qui est quand même d'un kitsch qui pique les yeux, hein, faut l'avouer. On y voit deux sœurs sorcières, dont l'une est donc interprétée par Nathalie Dormer, qui brûle une plantation et ses travailleurs. Un enfant est épargné, témoin du terrifiant pouvoir de ses sœurs maléfiques. Et cet enfant, hein, vous l'aurez compris sans peine, c'est notre héros, Thiago Vega, qui est un personnage divisé parce qu'il fait à la fois partie de la communauté latino et de la police, majoritairement raciste. Et en plus, il va devoir lutter donc contre des démons, tout ça pour un seul homme, dis donc. J'ai beaucoup ri quand le personnage de Nathalie Dormer, elle dit à un médecin d'origine allemande la manière dont elle perçoit son mari, parfait modèle de l'américain de base. Et elle dit, il écoute des combats de catch à la radio, il boit sa bière, il est curieux à propos de rien, il ne sait rien. Et ben c'est pas le portrait de Donald Trump qu'on est
totalement
en train de faire. Voilà. Donc là, ça m'a complètement semblé évident. Bref, voilà, c'est une série qui se regarde pour l'instant. C'est assez prometteur. Pour les amateurs de séries policières et fantastiques, ça peut faire le job.
Alors, un partout pour l'instant. Merci beaucoup, Ava. Benoît, vous allez nous donc départager le débat. Vers quel avis allez-vous pencher ?
Alors moi, j'ai le sorcier de la critique qui me susurre à l'oreille que j'ai détesté. Enfin, il y a quelque chose, j'aurais aimé, en fait. C'est ça mon problème avec cette série.
Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Avec tout ce qui a été dit jusque-là, effectivement, moi je me dis que des sectes sataniques, du mystique mexicain, des moments du musical, du polar noir et quelques néo-nazis, à un moment donné, c'est un peu étouffe chrétien. Alors, il y a beaucoup de choses. Tout pourrait être excellemment raconté. Or, ça part un petit peu dans tous les sens. Et puis, surtout, cette dynamique mystique et ésotérique, notamment liée à la culture mexicaine, qui aurait pu être extrêmement poétique, revoyez juste le film Coco, hein, de Pixar, pour voir à quel point ça peut être extrêmement beau et poétique, et en version horrifique, ça aurait pu être génial, c'est malheureusement laid, et extrêmement laid. C'est d'autant plus laid, tout cet univers un peu horrifique, que la reconstitution du Los Angeles de 1938, elle, est beaucoup plus tôt, est plutôt élégante, en fait. Même si c'est du genre, et regardez comme c'est beau. Hein. Enfin voilà. On sent donc la série qui se regarde en permanence, mais qui est là en train de nous raconter l'Amérique d'aujourd'hui. Et effectivement, Ava le montrait bien, la description de l'Américain de base qui est Donald Trump, l'America First, tout ça nous renvoie à cette Amérique d'aujourd'hui. Alors, si on veut une série puissante qui nous parle de l'Amérique d'aujourd'hui en repartant à cette époque-là, regardez plutôt la série de David Simon dont on parlera dans le plateau télé, et puis laissez de côté cette série, à moins que vous aimiez vraiment le grand guignol, effectivement. Et puis bon, voilà, Penny Dreadful, ça vaut pas un penny, quoi.
Excellente conclusion, merci cher Benoît, et effectivement, pour l'instant, mais encore une fois, nous n'avons vu que les trois premiers épisodes, une légère déception concernant ce Penny Dreadful City of Angels que vous pouvez voir sur Canal+ série depuis le 27 avril à raison d'un épisode par semaine chaque lundi soir.
veut du sang sur les congas. On veut du monde sur la piste. On veut les flics à la sortie. Et libérer la bonne énergie. On veut du feu sur le secteur. Chercher le soleil intérieur. On veut repartir de plus belle. Avec du rhum dans nos cocktails de maracas.
Voilà, nous venons d'écouter du sang sur les congas, le nouveau titre de Cléa Vincent, qui est le premier extrait de son nouvel album Tropi Cléa 2, qui est sorti il y a quelques jours.
France Inter, une heure en série.
Et c'est l'heure du plateau télé, particulièrement important ces temps de confinement. Donc je sais que vous avez soigneusement choisi les séries que vous alliez recommander à nos auditrices et à nos auditeurs. Et Ava, vous nous recommandez Run sur OCS, une série que j'aurais voulu aimer, mais à côté de laquelle je suis malheureusement un peu passé. Donc j'attends que vous la défendiez avec particulièrement d'intérêt.
Eh bien écoutez, je vais essayer de vous convaincre, hein, parce que la saison 1 vient de débarquer sur OCS. 3 épisodes ont déjà été diffusés. Ils s'intitulent dans l'ordre « Cours, embrasse, baise ». Parfait programme de déconfinement, hein, je dois vous l'avouer. Je dois vous dire que... bah oui, je dois vous dire que je suis devenue mais complètement accro à cette série. J'en suis dingue. C'est ma nouvelle passion dans la vie. Vous voyez Macaulay Culkin dans Maman j'ai raté l'avion quand il court seul et partout dans sa maison en hurlant de joie. Bah c'est moi, hein, devant cette série. Elle est signée Vicky Jones, scénariste britannique qui avait collaboré à l'écriture de Killing Eve, et l'une des productrices exécutives n'est autre que Phoebe Waller-Bridge. La star des showrunners britanniques, évidemment, à qui l'on doit Fleabag et Killing Eve, justement. Donc, autant vous dire qu'on est dans une série moderne, qui a le comique acide, la gravité touchante et de la grâce à revendre. Alors, Run, c'est l'histoire de deux anciens amants qui, à la fin de leurs années fac, ont fait un pacte où ils s'engageaient à disparaître ensemble si jamais l'un d'entre eux, ayant besoin d'échapper à sa vie, envoyait par texto le mot « Run » et que l'autre y répondait par le même mot. Voilà les grandes lignes de l'histoire. Sur le papier, pour ma part, ça fout déjà les frissons. Eh bien, quand on voit ces premiers épisodes, ils se concrétisent, ces frissons, parce qu'on frémit de plaisir et de surprise devant Run. C'est parfaitement pensé, parfaitement rythmé. Un poil érotique aussi, ou en tout cas en période de confinement, ça émoustille. Et c'est parfaitement interprété. On retrouve dans les rôles principaux Merritt Weaver, qui était l'une des héroïnes de la série Unbelievable, et Domhnall Gleeson, qu'on a vu sur grand écran dans Ex Machina, The Revenant ou dans les nouveaux Star Wars, et sur petit écran dans un des épisodes de Black Mirror. J'adore cet acteur, il apporte toute sa British touch à son personnage, un trentenaire à fleur de peau, en pleine crise existentielle, comme le personnage qu'interprète Merritt Weaver, mal mariée, malheureuse. Donc voilà, moi je suis complètement emballé par l'atmosphère, par le ton, par le mélange des genres aussi, parce que c'est une comédie romantique, mais qui emploie parfois les codes du thriller, qui joue la montre et le suspense. Donc pour moi, c'est un sans faute. Courez-y.
Ah, j'ai presque envie de lui redonner une chance. Vous la défendez tellement bien. Merci beaucoup, Ava. C'était Run sur OCS. Benoît, vous allez évoquer une série dont a parlé Christine tout à l'heure au cours d'une de ses interventions, Plot Against America, le complot contre l'Amérique, également diffusé sur OCS d'après le roman de Philip Roth.
Oui, effectivement. Donc, c'est l'adaptation du complot contre l'Amérique de Philip Roth par David Simon, vous savez, le maître de la série toujours très documentée, The Wire, The Corner, Tremé, The Deuce, et coécrit avec son complice de toujours, Ed Burns. Il fait appel à deux réalisateurs. Alors, Minky Shapiro, qui a réalisé plusieurs épisodes des séries Downton Abbey, Call the Midwife, et plus récemment, Fosse Verdon ou The Deuce. Et puis, Thomas Schlamme, l'un des producteurs artistiques de The West Wing et réalisateur des grandes heures, donc, de la télé américaine. Ensemble, ils font un chef-d'œuvre, une œuvre très utile, tant le populisme surtout et l'extrême droite se réveillent partout. Sur l'histoire, en deux mots, nous sommes dans une uchronie, hein, qui imagine que l'Amérique en 1940 aurait choisi un tout autre chemin que celle qui a poussé les États-Unis à entrer en guerre contre le nazisme et le fascisme. Alors que Roosevelt brigue un nouveau mandat et milite pour une intervention des États-Unis en Europe, voilà que l'aviateur Charles Lindbergh, héros national, xénophobe, populiste, se met en travers de son chemin. Il vole de ville en ville pour déclarer tout simplement de choisir entre Lindbergh ou la guerre, et il gagne l'élection. Il est élu président des États-Unis et il entraîne tout le pays dans le fascisme et réveille les plus bas instincts xénophobes et antisémites. Alors, le roman, hein, comme la série est très fidèle au roman, aurait pu imaginer raconter cette uchronie depuis les couloirs de la Maison-Blanche. Pas du tout, elle préfère suivre le bouleversement politique à travers le regard kaléidoscopique des membres d'une famille juive de la classe moyenne, la famille Levin. Et si au départ la vie semble peu bouleversée par cette élection, à l'écoute de la radio et notamment des éditorialistes qui alertent des dangers qui menacent le pays, certains préfèrent quand même fuir le Canada. Mais chez les Levin, et notamment le père, on croit encore à la force de la démocratie américaine. La série aurait pu jouer sur le sensationnalisme. La série se paye au contraire le luxe de prendre, comme souvent chez David Simon, son temps, et le temps s'étire, mais c'est pas anodin, parce que ça permet de mieux rappeler que c'est dans le calme des démocraties et les accommodements de chacun, face à des décisions politiques les plus tendancieuses, que se réveillent souvent le pire et les plus bas instincts. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir cette série en 6 épisodes. On sort en plus en se disant que ce qu'on voit là serait pu vraiment arriver en 1940 et on oublie l'Uchronie. C'est ça la grande force de cette série, portée par ailleurs par un casting extraordinaire, Morgan Spector, Winona Ryder, Zoé Gazan et John Turturro, entre autres. Et c'est sur OCS, en 6 épisodes.
Merci beaucoup Benoît, je suis entièrement d'accord avec toi. Plot Against America. Et enfin Christine, vous revisitez un peu l'histoire récente de la télévision et nous recommandez une excellente série, Damages, qui est diffusée actuellement sur Amazon Prime, avec pour moi, peut-être la plus grande comédienne américaine de ce temps, Glenn Close.
Eh oui, alors l'histoire commence en 2007, en fait, lorsque Ellen Parsons, une jeune et ambitieuse procureure, est engagée par la machiavélique Patty Hughes, qui dirige l'un des cabinets judiciaires les plus puissants de New York, gérant les affaires sensibles d'une poigne de fer et sans scrupules, et qui va devenir le mentor d'Ellen, son modèle et son pire cauchemar. Alors ça, c'est le début d'un face-à-face qui va opposer les deux femmes durant 5 saisons jusqu'en 2012 et qui va les impliquer à la fois professionnellement et personnellement, où les rapports de force vont sans cesse s'inverser. Alors dans ce combat féroce, on va découvrir que la trahison est toujours possible, le double jeu un exercice obligatoire et la manipulation indispensable. Damages, vous le disiez, c'est d'abord l'affrontement de ces deux avocates, magnifiquement incarnées par l'actrice australienne Rose Byrne, qui est la Gloria Steinem de la série Mrs. America en ce moment, et qui, à travers ce parcours initiatique, va perdre sa candeur, son innocence et sa morale face à l'américaine Glenn Close, qui nous la joue un peu à la marquise de Merteuil, et qui excelle dans
le registre... On l'a fait si bien.
Mais oui, elle excelle, je le dis, dans le registre des femmes de pouvoir, froides et sans état d'âme. Donc leur relation est véritablement le ciment de cette série judiciaire addictive qui mêle suspense, psychologie et émotion, et qui, à l'époque, hein, il y a quand même 13 ans, a renouvelé le genre avec sa structure narrative assez inédite, donnant à voir par bribes le sanglant avenir d'Ellen. Alors on est balancé dans un récit en forme de puzzle avec des va-et-vient temporels qui vont du présent au passé avec des bonds dans le futur, hein, on connaît, depuis on en a vu pas mal, et qui nous offre la possibilité de reconstituer au fil des épisodes le dénouement de chaque saison. C'est un dispositif redoutable d'efficacité qui donc a depuis inspiré d'autres séries comme Lost ou Heroes et qui demande une certaine patience, car l'essence même de ce système peut créer une certaine frustration, alors que ce qui importe, c'est la chute. La tension monte en crescendo au fil des saisons et la toute fin de la saison 5 nous donne la clé de ce combat entre le bien et le mal qui est en chacun de nous.
Merci beaucoup Christine, excellent éloge de Damages, qui je le rappelle est diffusée sur Amazon Prime. Merci beaucoup pour ce remarquable plateau télé. Ça fait quand même 6 beaux conseils que nous recommandons à nos auditrices, à nos auditeurs. Donc, merci à tous les 3. Voilà, 1 heure en série en mode confiné, bien sûr. C'est fini. Merci 1000 fois, vous 3, d'y avoir participé avec autant de talent. Merci à vous toutes et vous tous de l'avoir écouté. Nous vous avons recommandé ou pas, hein. Les amis étaient un petit peu mitigés et tranchés cette semaine, et tant mieux. Meurtre à White House Farm sur Polar Plus, This Is Us sur M6, non là, on était tous unanimes, et Penny Dreadful, City of Angels sur Canal Plus, série. La semaine prochaine, nous évoquerons L'Agent Immobilier sur Arte et Hollywood sur Netflix. Je vous donne rendez-vous demain à 11h et à 20h pour Le Masque et la Plume, qui sera consacré au cinéma et animé, bien sûr, par Jérôme Garcin. 1 heure en série, une émission à réécouter en podcast. Il y a un site internet. Vous pouvez bien sûr, même en temps de confinement, nous envoyer vos courriers. Cette semaine, l'émission a été réalisée par David Le Prince, la programmation musicale assurée par Muriel Pérez. Et j'ai eu le plaisir de préparer cette émission avec Amel Keldi.